Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on discute politique américaine avec Luc La Liberté. Notre invité de ce vendredi 29, c'est Luc La Liberté, le chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Cube et TVA. Bonjour Luc.
Oui, bonjour Julien.
Avec toi, comme d'habitude, on va parler d'actualité américaine, une actualité assez chargée. La dernière fois, quand on s'était parlé, c'était au tout début de l'année. On avait fait un peu le tour au retour des vacances, au retour du temps des fêtes. Et là, depuis, il y a eu de nombreuses péripéties, en grande partie péripéties qui se sont encore plus accentuées depuis le discours de l'État de l'Union. Un discours de l'État de l'Union, on en a parlé un peu en manière privée, mais qui a, semble-t-il, relancé Biden dans l'opinion. Et depuis, c'est une remontée dans les sondages extrêmement intéressante. Et là, on a eu Morning Consult, Harris Interactive, Ipsos, toutes les grandes firmes ont fait des sondages dans les swing states. Et on voit un Biden qui recommence à coller à Trump, qui est même passé devant Trump dans certains swing states, et qui se fait, et ça fait dire, est-ce qu'on certains ont enterré Biden trop vite?
Ah, écoute, quand on parle sur l'état de l'Union, qu'on parle même des sondages actuels, des plus récents, c'est certain que pour Joe Biden, ça devient intéressant. Pour les stratèges, on se dit, OK, il y a ce fameux bump, hein, cette hausse dans les sondages qu'on espère au mieux au lendemain d'un discours sur l'état de l'Union. Reste que tout ça, un peu comme notre discussion de début d'année, c'est quand même très loin du rendez-vous électoral. Ce sont de bonnes nouvelles pour l'équipe de Biden. On aime mieux celle-là que celle qu'on avait il y a un mois ou deux mois encore. Mais c'est intéressant, d'autant plus, même si on est à quoi 8 mois de l'échéance électorale, c'est qu'on sait que l'élection va se jouer. Tu référais au swing state, au fameux état pivot. Ça risque de se jouer. J'écoutais des évaluations cette semaine où je vérifiais des évaluations. Ça risque de se jouer entre 150 000 et 200 000 électeurs. C'est qu'au total des 6 états pivots qu'on envisage, on va se partager une cagnotte d'à peu près 150 000, 200 000 électeurs. C'est ce qui risque de faire la différence au total. On peut déjà prédire, et c'est pas un risque que je prends, Joe Biden va avoir plus de votes que Donald Trump. Donc, il va finir encore en avant dans le vote populaire. Mais ça se joue, bien sûr, on le sait, avec le décompte des grands électeurs, le nombre de grands électeurs qu'on gagne par État. Donc, c'est là où Joe Biden doit focaliser. Puis, il est aux prises avec un certain nombre de dossiers. Il faut qu'il gère Israël, il faut qu'il gère la politique intérieure.
Là, on a le pont à Baltimore aussi, maintenant, et tout.
Oui, depuis la nuit dernière, il y a ce pont à Baltimore qui s'est ajouté à sa liste de travail ou de dossiers qui s'empilent sur son bureau. Mais il perd jamais de vue en appuyant sur tous ces boutons-là qu'il y aura une perception et qu'en année électorale, ça devient encore plus important de bien se positionner dans chaque dossier. Donc, et faire le travail sur le fond en perdant pas de vue nos 6 grands états pivots. Mais c'est certain que le discours sur l'état de l'Union, peu importe ce qu'on a essayé d'en faire du côté démocrate ou du côté conservateur, on a vu un Joe Biden beaucoup plus déterminé. Et là où je pense qu'il a marqué des points, et c'est parfois où il en perd, c'est qu'il a improvisé pendant le discours.
Totalement.
Quand Joe Biden fait des erreurs habituellement, c'est quand il quitte le télésouffleur et qu'il répond à une question imprévue d'un journaliste ou qu'il décide d'y aller sur une lancée et d'improviser. Là, il s'est permis de répondre du tac au tac à ceux qui étaient devant lui, donc essentiellement des républicains. Et là, c'était difficile pour n'importe quel républicain ou commentateur de dire il est endormi.
On a eu Fox News qui a dit qu'il avait pris de la coke. Donc à partir de là, c'était la seule critique qu'il y avait. Mais ce qui est assez drôle, et tu parlais des 100 et quelques mille voix qui feraient la différence de ces élections, ce sont les derniers. Donc dans ces derniers sondages, de ces 3 grandes institutions avec l'agrégateur de vie économiste, quand on analyse les sondages, on voit un Biden devant de 1% en Wisconsin, un Biden devant de 3 à 5% en Pennsylvanie et qui emmène avec lui, on ne sait pas si c'est Biden qui emmène avec lui ou si c'est les élections pour le gouverneur qui emmène le vote Biden vers le haut, et un Biden qui a égalité, je crois, au Michigan. Et Biden, c'est surtout autant Pennsylvanie, on s'y attendait parce qu'on sait la répartition des votes, il suffit que les électeurs démocrates se remobilisent dans les deux grands centres urbains de Philly et Pittsburgh pour faire un bump démocrate assez important. Autant le Wisconsin, il y a un switch qui se fait de plus en plus, un changement qui se fait de plus en plus en faveur d'un électorat démocrate au Wisconsin, année après année, c'est sûr. Mais c'est au Michigan dans les derniers mois, depuis la guerre, le début de la guerre en Israël, les électeurs arabes désertaient, préféraient s'abstenir ou voter Robert Kennedy, parce que, ou même pour certains voter Trump, pensant que Biden est égal et Trump sont égaux par rapport à ça, donc autant voter Trump, désertaient le vote Biden. Et là, on voit, selon ces sondages, semble-t-il, pour qu'il y ait un appui comme ça qui revient vers Biden, selon ces sondages, c'est sûr qu'il y a des électeurs arabes, musulmans, américains qui reviennent vers le vote Biden. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut dire que même au niveau des grands dossiers, commence à avoir une certaine lassitude et on passe à autre chose dans l'électorat américain?
Ouais, j'ai hâte de voir, parce qu'il y a des quand on est dans l'équipe stratège de Joe Biden et qu'on découpe l'électorat, c'est ce que font la plupart des équipes. Ouais. On peut pas carrément mettre des étiquettes à des portions d'électorat, mais parfois on n'est pas loin de pouvoir le faire. Donc il y a bien sûr tout ce qui est critique du comportement de l'administration américaine face à Israël, puis surtout ce qu'on considère être une inaction dans la situation des civils palestiniens. Donc, il y a des États où ça peut nuire. La Pennsylvanie, tu l'as dit, c'est moins important. Le Michigan, c'est majeur. Donc, on va essayer de combler le manque à gagner dans ces régions-là. Le problème, tu l'as bien dit, c'est pas qu'on va voter Trump, même si occasionnellement on va le faire. Le plus grand problème, c'est la mobilisation. C'est qu'on décide de ne pas aller voter.
C'est ça.
Donc, on a passé notre message lors des primaires. Donc, le message était assez clair. S'il n'y a qu'un seul, 1% au Michigan, ça peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Donc, cette communauté-là est très importante. Mm. Quand on regarde ensuite, tu référais à la Pennsylvanie, c'est le cas aussi de quelques États pivots. Ça va beaucoup se jouer dans les banlieues. Et Joe Biden doit être rassuré depuis quelques semaines. Quand on regarde dans le comportement des électeurs, qu'on vote chez les démocrates ou les républicains, ce qui ressort des banlieues,
une remobilisation.
Voilà. Donc, on l'a remarqué même quand Donald Trump gagne dans les primaires, quand il a finalement vaincu officiellement Nikki Haley. Mmh. Mais quand on regarde où étaient les appuis de Nikki Haley, ces progressistes dits modérés, puis dans certains cas, prêts à voter pour Joe Biden, on les retrouvait beaucoup dans les banlieues. Donc, ça reste une problématique pour Donald Trump. Sinon, ce que je surveillerais également si j'étais dans les stratèges de Joe Biden, et je réfère à un texte que j'ai écrit hier pour le journal.
J'allais te poser la question sur ça à propos de James Carville. Oui.
Voilà, James Carville a dit, le Parti démocrate, il a dit, j'ai pris la peine de le dire dans l'article, la formule, les mots, disons que James Carville n'a jamais fait dans la dentelle et que c'est particulièrement cru comme propos, mais il dit, l'électorat masculin va vers les républicains, mais il a fait ressortir l'électorat masculin chez les Noirs également. Ouais. Puis on oublie parfois, quand on accole des étiquettes, on dit le vote des minorités, des Latinos, des Noirs va pour les démocrates, on oublie qu'il y a, ça fait deux cycles électoraux, des Noirs qui votent du côté de Donald Trump, et ce sont majoritairement des Noirs. Donc, si on parle de mobilisation, si on parle de la Géorgie, par exemple, qui risque d'être un de ses états pivots pour 2024, est-ce qu'on va parvenir à mobiliser le vote de la même façon qu'on y est parvenu en 2020? Donc, ça va être intéressant à surveiller. Mais cela dit, Joe Biden préfère nettement son positionnement actuel que ce qu'il avait avant le discours sur l'état de l'Union.
Et tu me laisseras compléter sur ça aussi. C'est Bill Maher, dans son New Rule, dans sa chronique de fin d'émission, de sa dernière émission de vendredi, parlait de politique identitaire et identity politics, comme ils disent aux États-Unis. Et il expliquait, c'est ça, il faut prendre en compte, les démocrates sont obligés de prendre en compte ces voteurs noirs masculins qui votent républicains, et aussi les voteurs latinos qui votent républicains, voire même qui votent républicains Trump à fond, et qui, pour la plupart, en plus, constituent la majorité des effectifs de la police aux frontières américaines. Ce sont des latinos qui votent à droite, voire à l'extrême droite aux États-Unis. Donc ce sont des choses extrêmement intéressantes à prendre en compte et qui fait que l'idée d'identity politics, des politiques identitaires, doit peut-être être abandonnée sur certains points par les stratégies démocrates pour faciliter une élection.
Tu vois, Bill Maher revenait là-dessus aussi en disant on ne peut pas accoler l'étiquette à toutes les catégories. On n'est pas que latino ou on n'est pas que noir.
C'est ça.
Et quand on regarde les latinos, ceux qui vivent près de la frontière sont plus sensibles à la question de l'immigration illégale. Mais il faut se rappeler aussi qu'on l'a répété à plusieurs reprises, la question de l'avortement va être fondamentale dans cette élection-là. Mais la question de l'avortement, il y a beaucoup de latinos qui sont des croyants, des catholiques, très conservateurs, qui sont contre ce recours à l'avortement ou encore qui souhaitent en limiter l'accès. Mm. Et si c'est pour nous une question de l'urne, alors dans ce cas-ci, certains latinos se rangent du côté des républicains. Ouais. Donc c'est une donnée que les démocrates doivent considérer également.
Allons-y un peu sur la question de l'avortement. On avait, l'émission est enregistrée le mardi, chers auditeurs, on avait aujourd'hui les lectures des arguments et les débuts de réponse de la Cour suprême sur une affaire concernant une pilule d'avortement, une abortive pills, comme ils disent en anglais. anglais, qui a été interdite de manière nationale par un juge au Texas, nommé par Donald Trump. Mais la décision était extrêmement casanière, mais ça a été bien sûr le moyen pour les activistes anti-avortement comme pro-avortement d'avoir une cause dans la Cour suprême. Et on avait aujourd'hui donc la lecture des arguments et le début de lecture des réponses devant la Cour. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant?
Ce qui est important à souligner, je pense, en partant, c'est que c'est pas la pilule elle-même qui a été autorisée par la FDA, qu'on considère être sûre, c'est la façon de la distribuer. Puis en fait, ce qui se retrouve devant la Cour suprême cette semaine, c'est la façon de la distribuer qui a été modifiée en raison de la COVID, puis en raison de ces périodes de confinement. Puis on a dit habituellement, ça se faisait dans la clinique d'un médecin, dans un bureau de médecin ou avec des infirmières spécialisées, mais c'était un cadre beaucoup plus, disons, restrictif, ou c'était un cadre beaucoup plus limité dans lequel on pouvait obtenir cette fameuse pilule abortive. Maintenant, depuis qu'il y a eu depuis la COVID, depuis les périodes d'isolement, de confinement, donc on est capable de se la procurer beaucoup plus facilement, incluant par des consultations en ligne et pas forcément avec un médecin. Et on mise sur le fait que la FDA a dit, dans un contexte bien particulier, ce médicament-là est tout à fait sécuritaire, n'entraîne pas de retombées pour la santé de la mère. Et ce qu'on dit finalement, c'est qu'on n'a pas constamment besoin d'un médecin pour venir avaliser ou autoriser l'utilisation ou le recours à la pilule abortive. Donc, c'est ça qui se retrouve devant la Cour suprême. Et écoute, tu viens de le préciser, on parle ensemble, on est mardi. Ce que j'ai entendu ce matin, ou les échos qu'on a eus de la Cour suprême, c'est que les juges semblent très sceptiques à l'idée de bannir finalement ce médicament-là dans les règles actuelles au plan national.
On avait quand même deux juges, Alito et Clarence Thomas, qui sont les juges les plus conservateurs de la Cour, qui dans leur première question, selon certains experts légaux proches de la Cour suprême américaine, expliquaient que les questions montraient que leur but, ça était limite vraiment d'ensuite d'utiliser le Comstom, de pouvoir remettre avant le Comstom Act qui empêcherait toutes les pilules abortives dans tous les 50 États et tout. Ça serait leur rêve absolu, mais probablement que les autres juges n'iront jamais dans ce sens-là et que c'est sûr qu'ensuite la distribution de la pilule sera protégée.
Tu vois, et c'est ce que tu viens, j'aime bien que tu mettes le doigt là-dessus. J'ai hâte de voir parce qu'on a souvent tendance à dire, puis parfois ce préjugé-là est avéré, c'est qu'on a 6 conservateurs et 3 progressistes. Mais la façon dont la cause est parvenue à la Cour suprême, ce sur quoi on doit se prononcer, il faut être particulièrement conservateur, comme le sont entre autres des juges comme Samuel Alito auquel tu référais, pour aller contre la décision. Alors moi, j'ai hâte de voir, je pense qu'il y aura cette fois-ci, écoute, c'est une prédiction, ni toi ni moi ne sommes à l'intérieur de la tête des juges de la Cour suprême, mais j'ai l'impression qu'il y aura un travail conjoint là-dedans, qu'il y aura une collaboration dans la décision, dans la rédaction de la majorité, entre certains conservateurs et les progressistes. Et je serais pas étonné que dans ce cas-ci, on continue de permettre, dans la forme actuelle, donc le fait de pouvoir distribuer et consommer cette fameuse pilule là-bas.
Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine pour les médias de Québécois. On passe à Trump. Trump, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Il est devenu encore plus riche. Enfin, est-ce qu'il est vraiment devenu encore plus riche? On ne sait pas. Voilà. Mais ce qui est assez drôle, surtout sur Trump, ça va être le début des procès. On sait que ça risque d'avoir beaucoup d'importance sur ce que certains électeurs sont prêts à, s'ils sont prêts à voter oui ou non. Mais tu parlais tantôt de ces électeurs modérés républicains qu'il doit aller chercher pour obtenir cette majorité, surtout dans les États pivots, ces électeurs de Nikki Haley, ces électeurs aussi qui étaient contre lui, mais qui choisissaient d'autres comme Ron DeSantis, même si on ne peut pas dire que Ron DeSantis est modéré, mais on va dire un peu plus modéré que Donald Trump. Et Trump, selon un article du New York Times, je le lisais, qui est sorti hier soir, je le lisais ce matin, « Trump isn't reaching out to Haley and Ovatos ». Il ne va pas, il n'a aucune intention d'aller vers les électeurs et les électrices de Nikki Haley. Et ça pourrait lui jouer défaut.
Tu vois, puis on pourra revenir au déroulement des procès, parce qu'on a une date. Non seulement on a le premier président qui a été accusé au criminel, mais on aura, à partir du 15 avril, un président qui va être en procès, pour une affaire criminelle. Sinon, moi, c'est une chose, ça ne m'étonne pas en même temps de la part de Donald Trump. C'est très clair depuis la défaite de 2020. On pourrait même dire les résultats mitigés de 2018, 2020, 2022. Une chose qui a été très claire pour Donald Trump et ses partisans, c'est que les purs et durs vont nous suivre contre vents et marées, peu importe ce qui va se produire. Ceux qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again, vont être au rendez-vous, ils vont aller voter, ils ne vont jamais laisser tomber Donald Trump. Mais 2018, 2020, 2022, ce que ça montre, c'est que Donald Trump ne peut pas gagner qu'avec ça. Si Joe Biden a des préoccupations de son côté, puis il commence d'ailleurs à développer un plan d'attaque ou un plan de réplique pour aller regagner ses votes perdus ou les votes dont on doute, il semble que Donald Trump n'ait pas l'intention du tout, lui, de montrer une quelconque forme d'ouverture pour aller chercher effectivement soit les progressistes modérés, du moins les progressistes à la Nikki Haley, ou encore des indépendants. On a besoin des deux. Joe Biden est allé chercher ça à la dernière élection. Quand on parle de 7 millions de votes de plus, il y a fort à parier qu'il n'y a pas beaucoup de gens là-dedans qui étaient très enthousiastes à l'idée de voter pour Joe Biden. On voulait plutôt aller contre Donald Trump et contre ses propos les plus durs, les plus exagérés, contre ses formules les plus emportées. Et il semble que Donald Trump aille de l'avant, qu'il baisse la tête, qu'il continue avec la même stratégie, mais qui lui a fait perdre ou qui lui a apporté des résultats limités.
Et qui a fait perdre les républicains. Et là, on se retrouve avec des républicains modérés qui en ont marre et qui décident de démissionner avant leur terme et qui fait que probablement dans quelques semaines, le speaker, le président de la Chambre des représentants, ça ne sera plus M. Johnson, ça risque d'être Hakeem Jeffries si ça continue.
Oui, écoute, ça, c'est s'il y a une surprise à laquelle on prévoyait ça, ces guerres intestines, que ça allait continuer. Ça vient de se dérouler sur les questions de budget. J'expliquais d'ailleurs cette semaine à un ami, on est habitué à ça, la rivalité entre républicains et démocrates, qu'on en soit venu à envisager une fermeture des services gouvernementaux dans un bras de fer pour faire céder l'adversaire. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça d'abord, mais on est habitué à ce que les deux camps se servent de ça comme d'un levier. Ce à quoi on est moins habitué, c'est que la rivalité se fasse au sein d'un même parti. Et tu viens de référer à Hakeem Jeffries. Si je suis Hakeem Jeffries...
Je me prépare à changer de bureau dans quelques semaines.
je peux changer de bureau, mais en même temps, c'est que j'ai même plus besoin d'être l'opposition. Je peux limiter mes déclarations, je peux limiter les gestes les plus spectaculaires, parce que l'adversaire fait ça, c'est une chicane de famille. Donc, je peux rester en retrait puis me montrer un peu plus digne de la gestion des affaires courantes de la Chambre que ce que démontrent les républicains. Et ça, je pense que ce n'est pas être partisan que de dire, si on regarde depuis 2 ans, c'est fou ce que les représentants de la Chambre des représentants donnent l'impression publique américaine de les laisser tomber parce qu'il ne se passe à presque rien. J'allais dire absolument rien, je me garde une petite réserve.
Tu dis le mot dignité, je trouve que c'est un mot très intéressant, surtout dans le cadre du contexte de Donald Trump, mais souvent un peu pour cacher le manque de dignité, par exemple. On va utiliser beaucoup de pubs, beaucoup de campagnes publicitaires. Et là, il y a un gros problème en ce moment, surtout à cause des déboires judiciaires de Donald Trump et du fait que c'est le RNC, donc le parti républicain lui-même, qui participe à payer les frais judiciaires de Donald Trump et tout. C'est que la campagne de Trump, ainsi que le RNC, tellement que les frais judiciaires coûtent cher, que ce soit les amendes, les frais d'avocat et tout ça, ils n'ont plus d'argent, à part de l'argent de petits donateurs. Mais là, ça ne suffit pas. C'est bien pour mobiliser une base, pour aller voter et tout ça, on s'assure d'une mobilisation assez importante, mais ce n'est pas l'argent qui permet de faire des grandes campagnes publicitaires fortes. Je voyais ce matin donc MSNBC, en suivant le problème du pont, il y avait un moment, ils parlaient de cash on hands, de qu'est-ce qu'ils ont comme argent en compte en ce moment, les deux campagnes. Et Trump, on était à 70-80 millions, ce qui est bien pour aller jusqu'au mois de juin, pendant que Biden en a 250 millions et fait record sur record. Bien sûr, c'est beaucoup de gros donateurs, mais quand même, ça veut dire quelque chose. C'est qu'on a un retour, on a une remontée dans les sondages en ce moment de Biden, et on va voir aussi de l'argent pour pousser encore plus au moment où l'électorat va avoir besoin de se faire vraiment une idée sur qui voter.
Et écoute, Biden avait beau jeu parce que il n'était pas menacé par un candidat comme Phillips ou comme par Mme Williamson. Donc, c'est le candidat démocrate. Il a toujours, mais c'est plus un démocrate, il a toujours dans le rétroviseur, il commence à le voir apparaître un peu, il a toujours Robert Kennedy Jr. Ouais. Mais il n'avait pas à investir une fortune dans sa campagne électorale. C'est le président, ses décisions peuvent lui permettre d'obtenir de la publicité, il va se retrouver dans les médias de toute manière, il prononce un bon discours sur l'état de l'Union, puis on évoquait tout à l'heure les chiffres qui semblent montrer ou appuyer le fait que ce soit une bonne performance, bien perçue de la part du public américain. Pendant ce temps-là, Donald Trump devait, lui, mener une lutte, même si cette lutte-là, il l'a gagnée assez aisément. Il devait quand même investir, mais on devrait s'inquiéter du fait qu'on soit si loin de Joe Biden et qu'on ait, d'une certaine façon, je n'utiliserai pas le terme saigné, mais qu'on ait une certaine retenue de généreux donateurs qui, pendant un temps, ont donné à Nikki Haley et qui ne se sont pas tous rangés depuis derrière Donald Trump.
Ils ne veulent pas.
Et la situation du Parti républicain, écoute, j'essaie, je fais travailler mon ordinateur interne en même temps, ma banque de données personnelles. J'essaie de me souvenir d'une époque où un parti politique a été autant intimement associé à un candidat. L'équipe Clinton, par exemple, je les présente toujours tous les deux ensemble, mais quand Bill Clinton est là, le Parti démocrate, c'est beaucoup l'équipe Bill Clinton. Ce sont ses proches qui dirigent le parti. Mais qu'on ait intégré à ce point la direction du parti avec le candidat et surtout les finances, ce qu'on a fait carrément, ce qu'on a fait dans les deux dernières semaines, c'est attacher la caisse du parti aux affaires de Donald Trump. Et tu l'as bien souligné, si on dépense 20, 40, 60, 70 millions, même les donateurs qui sont invités dans des soupers, Associated Press a relayé ça la semaine dernière, et si on lit les petits caractères de votre invitation pour venir participer à la campagne de financement, ce qu'on vous dit, c'est que votre argent va d'abord servir à Donald Trump et qu'il y en a une petite portion qui va se retrouver dans les coffres du Parti républicain. Ça veut dire que ça devient très difficile d'être républicain sans être 100% MAGA ou 100% Donald Trump.
Et ça joue aussi sur les petits candidats qui doivent envoyer des sous au RNC lors de certaines élections. Voilà. Et du fait que Lara Trump, qui maintenant est la trésorière du Parti républicain, sa belle-fille est la trésorière du Parti républicain, donc s'occupe de la répartition ensuite de l'argent auprès des équipes Trump, donc pour le paiement de ses dettes auprès des avocats, auprès des différentes amantes et tout. Et l'un des exemples parfaits, surtout, on parlait des swing states et ce qui va être important si le Parti républicain veut avoir une belle soirée au mois de novembre, c'est que tu disais un des États, c'est l'Arizona qui est devenu un swing state. Et l'Arizona, la candidate pour le Sénat, ça va être Carrie Lake, qui a peu de chances de l'emporter. Quand on voyait certains sondages, Carrie Lake, on se souvient d'elle, qui était une des grandes défendresses du grand mensonge à propos de oui, Biden aurait truqué les élections. Mais voilà, on sait très bien qu'est-ce que le grand mensonge a mené à la fin, au 6 janvier, tous les problèmes qui se sont passés depuis. Mais Carrie Lake, qui a très peu d'argent en banque parce qu'une majorité de son argent doit être envoyé au RNC, qui ensuite ça part à Donald Trump et qui commence à se plaindre, qui elle était la plus pro-Trump comme pas possible, et comme tous les gens qui ont tous aimé Trump, à la fin ils se sont fait arnaquer.
Puis écoute, il y a une expression qui est devenue un cliché qu'on a surutilisé, mais quand on dit mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est exactement ce que font les républicains. On mise à 100% sur Donald Trump au point de vampiriser les campagnes de candidats qui sont fragiles. Donc, on risque finalement de doubler les pertes. Si Donald Trump perd, on perd la Maison-Blanche et il y a des candidats qu'on va sacrifier en même temps et qu'on aurait peut-être pu aider avec une aide financière supplémentaire. Le cas de Carrie Lake est un de ces nombreux exemples, je pense, de gens qui vont payer le prix des déboires de Donald Trump qu'on paie en partie grâce à la petite caisse ou à la grosse caisse du Parti républicain.
Ça me laisse poser une dernière petite question avant de passer sur le dernier sujet rapide de cette émission, c'est Rona McDaniel et les médias. Mais c'est quand on voit de ce côté, ça, on paye le prix, on voit un Parti républicain qui devient plutôt le Parti de Trump puisqu'il est le Parti républicain. Dans le même temps, dans la dernière semaine, on a eu deux sorties. Liz Cheney, la fille de, bien sûr, bien connue depuis les auditions à propos du 6 janvier, et Lisa Murkowski, la sénatrice de l'Alaska, qui ont dit, bien sûr, qu'ils ne voteront pas pour Trump, et qui même explique qu'ils sont prêts à quitter le Parti républicain tel qu'il l'est actuellement et fonder un nouveau parti conservateur, surtout pour Liz Cheney. On sait très bien que Liz Cheney a des entrées chez ce genre de sénateurs. Donc, c'est à se dire, est-ce que finalement, à la fin, quand une fois Donald Trump débarrassé, si défaite il y a, il faudra un peu réassainir et faire une terre brûlée pour reconstituer un parti conservateur?
Écoute, moi, ce que j'ai hâte de voir, et Liz Cheney, et tu viens de référer à Murkowski aussi, laisse carrément entendre ça, c'est comment va évoluer une formation comme No Labels, qui dit nous, on voudrait pas être partisans, on veut regrouper démocrates et républicains. Jusqu'à maintenant, l'aventure, en tout cas, elle semble intéresser plus des républicains que des démocrates. Donc, à la lumière des résultats 2024, est-ce que No Labels pourrait pas se joindre à une faction de conservateurs, à la Liz Cheney ou à la Lisa Murkowski? Ça s'est déjà produit dans l'histoire du 20e siècle. Le Parti républicain s'est déjà scindé au début du 20e siècle.
Avec Theodore Roosevelt.
Et finalement, Roosevelt, qui avait quitté le Parti républicain, a terminé deuxième derrière Woodrow Wilson à l'époque. Donc, les républicains étaient descendus jusqu'au troisième rang. Donc, on n'en est pas encore là. Mais c'est certain, quand on voit, il y a Ken Buck, d'ailleurs, qui a quitté le parti cette semaine, quand on voit ces républicains conservateurs, mais conservateurs au sens où on l'entendait depuis 25 ou 30 ans, quand on les voit quitter la formation politique, il y a un malaise qui est profond. Et en cas de nouvel échec de Trump et de plusieurs de ses partisans, moi, je pense que c'est pas impossible qu'on les voit se regrouper puis dire « OK, on recommence sous une nouvelle bannière, puis on verra ce que ça va créer. » Mais on est le Parti républicain devrait maintenant s'appeler le Parti Donald Trump. C'est là où on en est rendu à la veille de l'élection 2024. Ce qui fait que des républicains, si je suis un républicain des 25-30 dernières années, si j'étais, par exemple, un John McCain qui est décédé, mais je ne me retrouve pas dans ce parti-là. On est à des années-lumière de ce que Reagan ou Bush père ont pu vendre aux Américains comme étant le Parti républicain.
Ma dernière petite question, Rona McDaniel, l'ancienne patronne du RNC, qui a été nommée, qui a été embauchée par NBC News pour être consultante politique durant les prochaines élections et pour après. Beaucoup de critiques. Est-ce que les médias n'ont pas retenu la leçon de toutes les dernières années et sont limite prêts à apaiser M. Orange si il revient au pouvoir en embauchant ses plus fidèles menteurs?
Écoute, moi, je suis très content, puis je vais m'expliquer, mais je suis très content de la réaction des chroniqueurs et journalistes de NBC qui déplorent l'arrivée de Mme McDaniels, à qui on a offert un contrat de 300 000 $, je crois. Et c'est pas parce que c'est une républicaine. C'est parce que c'est une menteuse. Moi, j'aime bien les émissions, on ne peut pas offrir que ça, mais j'aime bien CNN a joué là-dedans, Fox News offre également une répartie aux démocrates assez régulièrement, ceux qui veulent y aller. J'aime bien ces émissions où on a des confrontations. Quand on évite la cacophonie,
pas avec des menteurs.
Quelque chose n'était... Ben voilà.
Qui sont cités dans des affaires criminelles.
Voilà, ce qu'NBC vient de faire, c'est de lancer un message aux complotistes, aux théoriciens du complot. Ben regardez, on est prêt même jusqu'à... On va vous donner un porte-voix où les idées que vous avez défendues, dont on sait qu'elles sont fausses et dont on s'est employé à démontrer l'absence de preuves, ben maintenant, on récompense quelqu'un en lui donnant du temps d'antenne. Donc, je suis content de l'équipe. Et je répète, pas parce que on serait plus démocrate puis qu'on évite une républicaine ou qu'on s'oppose à une républicaine. Je veux bien qu'on débatte, et c'est un des grands problèmes du monde de l'information de nos jours. Débattons au moins à partir des faits.
Totalement.
À partir du moment où on oppose les faits aux mensonges, je débarque du train. Et je pense que c'est ce qu'on fait cette semaine, puis en fin de semaine dernière, beaucoup de représentants de la chaîne NBC.
Luc Laliberté, chroniqueur dans les médias de Québécois pour la politique américaine. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de parler ensemble.
Plaisir partagé, Julien.
Merci à toi, Luc. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM.